Bonjour Naïma Moutchou.
Bonjour.
Le groupe de travail sur la détention dont vous faites partie va rendre ses conclusions demain. Qu'est-ce qui vous a guidé dans votre travail, vous et vos collègues? La cohérence des peines ou la réduction de la surpopulation carcérale?
Alors, le travail de la commission des lois, il est parti d'un constat simple, c'est qu'on s'est rendu compte que la prison était devenue le terreau de la récidive, avec ce symptôme effectivement majeur aujourd'hui, qui est la surpopulation carcérale. Il est là, à notre sens, le vrai problème qui crée aujourd'hui toutes les autres difficultés qu'on connaît, c'est-à-dire la promiscuité qui entraîne des conditions de détention insalubres, et puis derrière tout ça, la récidive.
Pour réduire la surpopulation carcérale, il y a en gros deux grandes solutions. Soit on fait plus de places de prison, soit on envoie moins de monde en prison en prononçant des peines moins longues ou en écourtant les peines, en les faisant pas accomplir jusqu'au bout. Est-ce que tout ça peut se faire sans tordre le bras des juges, notamment si on joue sur les peines ?
D'abord, effectivement, la première chose que l'on fait aujourd'hui, c'est qu'on construit plus de places en prison. Il y a à peu près 10 000 places aujourd'hui qui manquent en France. On en crée demain 7 000, en tout cas dans le quinquennat. Ouais. Donc c'est une première manière, effectivement, de désengorger toutes les prisons. La deuxième chose, c'est qu'il faut repenser le sens de la peine. Ce n'est pas tordre le bras au magistrat, c'est de dire aujourd'hui, dans notre droit, il existe déjà un éventail de peines qu'il faut appliquer. C'est vrai que jusque-là, ça n'était pas fait parce que c'est, je crois, un peu culturel aussi. Mais il faut qu'on aille dans ce sens. Ça a prouvé ses effets à l'étranger. Moi, je suis allée visiter notamment une prison ouverte au Danemark et on voit que le taux de récidive baisse. Donc c'est dans l'intérêt de tout le système judiciaire aujourd'hui, de développer demain ces alternatives à la peine de prison.
Oui, vous avez évoqué les prisons ouvertes. La présidente de la commission des lois voudrait développer justement ces prisons ouvertes en France. Je crois qu'il n'y en a qu'une qui est en Corse. Et comme leur nom l'indique, ce sont des prisons dans lesquelles les détenus ont une grande liberté de mouvement. Parfois, il n'y a même pas de mur d'enceinte. Est-ce que vous pensez que l'opinion publique est prête à soutenir ce genre d'initiative?
Oui, je le crois, si on fait œuvre de pédagogie. Ces prisons ouvertes, elles ne seront pas avisées de tous les publics. Elles ne concerneront notamment que les petites peines, les courtes peines.
Celle de Corse, par exemple, il y a des détenus qui sont là pour de très lourdes peines.
Fait.
Et en particulier des crimes sexuels.
Oui. Absolument. En revanche, dans le travail que nous avons effectué à la commission des lois, nous sommes arrivés à la conclusion que ce sont les courtes peines qui sont adaptées à ces centres de détention ouverts.
Vous imaginez bien les problèmes que ça peut poser en termes de voisinage et de réaction d'hostilité.
Bien sûr. Alors effectivement, la difficulté, c'est aujourd'hui de trouver des emplacements pour construire ces centres d'incarcération ouverts. Mais je crois qu'il faut faire confiance demain aux solutions que nous proposons aujourd'hui. Elles ont prouvé réellement leurs effets. C'est dans l'intérêt de la société que le taux de récidive baisse. Donc il faut que nous l'expérimentions de manière un peu plus large que ce qui existe aujourd'hui. Vous l'avez dit, il en existe une en Corse, il y en a une autre à Vendeuil. Donc il y en a deux aujourd'hui.
Ouais.
Donc il faut qu'on puisse l'expérimenter.
On sait qu'en France, les conditions de détention sont assez déplorables. Ça a été dénoncé à de nombreuses reprises. Ça, c'est une réalité que vous avez vous-même constatée?
Malheureusement, oui. Malheureusement, oui. Je l'ai vu de mes propres yeux déjà. Je suis avocate de formation, donc j'ai eu l'occasion d'aller visiter plusieurs prisons. Je me suis reprêtée à l'exercice quand la commission des lois a lancé notamment son opération prison. Et effectivement, au fur et à mesure des années, rien ne change. Et au contraire, la situation empire. Les prisons aujourd'hui sont indignes de ce que représente la France, de la démocratie qu'est la France. Et il faut qu'on s'attaque à ce problème. Sinon, demain, les difficultés seront encore plus grandes.
Vous avez accompagné ces derniers jours le ministre de l'Intérieur au Niger dans un voyage dont l'un des objectifs était de lutter contre l'immigration clandestine. Qu'est-ce que vous a appris ce déplacement ?
Alors c'était effectivement un voyage très instructif. Ce qu'il m'a appris principalement, c'est que une loi nationale ne permettra pas de résoudre le problème. La migration aujourd'hui, c'est un problème international. Ce sont demain des millions de réfugiés qu'il faudra accueillir. Et donc il faut une coopération à grande échelle, au moins à l'échelle européenne aujourd'hui, pour essayer de désengorger ces situations. Puis, on s'est intéressé au problème des passeurs. C'est extrêmement prégnant au Niger. Et là encore, il faut que la France ait tout son rôle à jouer dans la situation du Niger et plus largement au Sahel.
Quand vous dites une loi ne suffira pas, vous pensez à la loi immigration-asile ?
Je pense à la loi immigration-asile, effectivement, que nous allons bientôt examiner. Elle permet ponctuellement en France de résoudre un certain nombre de difficultés, mais elle ne résoudra pas le problème beaucoup plus large de la crise migratoire que l'on connaît.
La circulaire du ministère de l'Intérieur de décembre dernier qui autorise le recensement des migrants dans les centres d'hébergement a été très critiquée par l'opposition de gauche, par les associations également, mais aussi par certains membres de la majorité. Est-ce que vous en faites partie ?
Je n'en fais pas partie. Je n'en fais pas partie parce que je crois que le sens de la circulaire a été dénaturé. D'ailleurs, le Conseil d'État l'a validé. Cette circulaire, elle a été mise en place pour permettre de savoir qui était hébergé dans les centres d'accueil, pour savoir si on ne pouvait pas réorienter certains plutôt en centres d'hébergement ou dans des logements, et pour pouvoir effectivement faire le compte et savoir à quel type de population on a affaire. Il s'agit aujourd'hui de donner les meilleures solutions à toutes ces populations.
Vous avez visité le mois dernier la zone d'attente de Roissy, ainsi qu'un centre de rétention en Seine-et-Marne, et vous avez dit, je vous cite, que même si les personnes peuvent circuler librement dans le centre, et s'il n'y a pas de surpopulation, il est difficile de ne pas faire le parallèle avec une prison. Est-ce que vous en avez parlé à Gérard Collomb ?
Alors, je n'ai pas eu l'occasion de lui en parler. En revanche, on en a beaucoup parlé dans la commission des lois, puisqu'on a fait une restitution. Chacun a parlé de son expérience en visite de centre d'accueil. Et la conclusion, et c'est celle qu'on présentera certainement au ministre de l'Intérieur, c'est qu'il faut plus de moyens dans ces centres de rétention. Il faut apporter de l'argent pour améliorer...
A fortiori, si on allonge la durée de rétention.
D'autant plus.
Il faut donc, vous alliez dire, plus de moyens, beaucoup
plus
de moyens.
Plus de moyens demain, tout à fait.
La loi contre les fake news, ou en français, fausses informations, fausses nouvelles, serait prête. Vous avez travaillé sur le sujet. Mais finalement, si j'ai bien compris, ça ne devrait pas être un projet de loi, mais une proposition de loi. C'est-à-dire que ça ne viendra pas du gouvernement, mais des députés. Avant de dire un mot du fond du texte, d'abord, pourquoi finalement... cette idée qui vient du président de la République, qui en toute logique aurait donc dû être un projet de loi, va-t-elle passer par la forme d'une proposition de loi ?
Mais parce que c'est un sujet qui a été très très vite appréhendé par le groupe majoritaire. Et c'est vrai que les députés de La République En Marche avaient très vite travaillé sur les fausses informations. Et donc il est normal aujourd'hui que ce soit un texte présenté par les députés plutôt que par le gouvernement.
Ça n'est pas parce qu'il y aurait une dimension un peu embarrassante, puisqu'on sait que certains syndicats de journalistes s'en inquiètent et que du coup le président de la République préfère s'en décharger sur les députés ?
Non, absolument pas.
Non, on va vous croire sur parole. Alors, cette loi s'appliquerait uniquement en période électorale et préélectorale ?
C'est effectivement ce qui est visé par la proposition de loi, oui.
Ouais. Et alors, quel sera l'objectif et quels seront les moyens ?
Alors, cette proposition de loi, elle vise à restaurer le lien de confiance et de fiabilité dans l'information. Parce que ce qui se passe depuis un certain nombre d'années, c'est qu'avec la circulation massive des fake news sur les réseaux sociaux et à grande vitesse... l'information est susceptible d'être déformée et ça présente un risque majeur. Ça crée une espèce de climat de défiance, de doute, et c'est susceptible d'influencer les suffrages. On l'a vu pendant les élections présidentielles, on l'a vu aux États-Unis, on l'a vu avec le Brexit, avec le référendum catalan. L'objectif, c'est d'abord de créer un espèce de juge d'urgence qui va statuer dans les 48 heures sur la fausse information, et c'est aussi de renforcer les obligations de transparence des plateformes numériques.
Merci Naïma Moutchou.
Merci.
Bonne journée.
Bonne journée.